Le Capital, livre 1er, 3e section, chapitre grand 11. Taux et masse de la plus-value. Dans ce chapitre, comme dans les précédents, la valeur journalière de la force de travail, et par conséquent, la partie de la journée où l'ouvrier ne fait que reproduire ou maintenir cette force, sont censées être des grandeurs constantes. Posons que la valeur journalière d'une force de travail moyenne soit de 3 shillings, ou 1 écu, et qu'il faut 6 heures par jour pour la reproduire. Le capitaliste doit donc avancer 1 écu. Combien de plus-value lui rapportera cet écu? Cela dépend du taux de la plus-value. S'il est de 50%, la plus-value sera 1 demi-écu, représentant 3 heures de surtravail. S'il est de 100%, elle montera à 1 écu, représentant 6 heures de surtravail. Le taux de la plus-value détermine donc la somme de plus-value produite par un ouvrier individuel, la valeur de sa force étant donnée. Le capital variable est l'expression monétaire de la valeur de toutes les forces de travail que le capitaliste emploie à la fois. Sa valeur égale la valeur moyenne d'une force de travail multipliée par le nombre de ses forces individuelles. La grandeur du capital variable est donc proportionnelle au nombre des ouvriers employés. Il se monte à 100 écus par jour si le capitaliste exploite quotidiennement 100 forces, à petit n écu s'il exploite petit n force. De même, si 1 écu, le prix d'une force de travail, produit une plus-value quotidienne d'un écu, un capital variable de 100 écus produira une plus-value de 100 écus. De même, si 1 écu, le prix d'une force de travail, produit une plus-value quotidienne d'un écu, un capital variable de 100 écus produira une plus-value de 100 écus, un capital de petit n écus, une plus-value de 1 écu multiplié par petit n. La somme de plus-value produite par un capital variable est donc déterminée par le nombre des ouvriers qu'il paye, multiplié par la somme de plus-value que rapporte par jour l'ouvrier individuel. Et cette somme, étant connue la valeur de la force individuelle, dépend du taux de la plus-value, en d'autres termes, du rapport du surtravail de l'ouvrier à son travail nécessaire. Note de bas de page. Dans le texte, il est toujours supposé non seulement que la valeur d'une force de travail moyenne est constante, mais encore que tous les ouvriers employés par un capitaliste ne sont que des forces moyennes. Il y a des cas exceptionnels où la plus-value produite n'augmente pas proportionnellement au nombre des ouvriers exploités. Mais alors, la valeur de la force de travail ne reste pas constante. Fin de la note de bas de page. Donc, la somme de plus-value produite par un capital variable est donc déterminée par le nombre des ouvriers qu'il paye, multiplié par la somme de plus-value que rapporte par jour l'ouvrier individuel. Et cette somme, étant connue la valeur de la force individuelle, dépend du taux de la plus-value, en d'autres termes, du rapport du surtravail de l'ouvrier à son travail nécessaire. Nous obtenons donc cette loi. La somme de la plus-value produite par un capital variable est égale à la valeur de ce capital avancé, multiplié par le taux de la plus-value, ou bien elle est égale à la valeur d'une force de travail multipliée par le degré de son exploitation, multiplié par le nombre des forces employées conjointement. Ainsi, si nous nommons la somme de plus-value grand P, la plus-value quotidienne produite par l'ouvrier individuel petit p, le capital variable avancé pour le paiement d'un ouvrier petit v, la valeur totale du capital variable grand V, la valeur d'une force moyenne de travail petit f, son degré d'exploitation petit t prime sur travail entre parenthèses sur petit t travail nécessaire entre parenthèses, et le nombre des ouvriers employés petit n, nous aurons ou bien grand P égale, ouvrez la parenthèse, petit p sur petit v, fermez la parenthèse, multiplié par grand V, ou bien grand P égale petit f, multiplié par, ouvrez la parenthèse, petit t prime sur petit t, fermez la parenthèse, multiplié par petit n. Or, un produit ne change pas de grandeur numérique quand celle de ses facteurs change simultanément et en raison inverse. Dans la production d'une masse déterminée de plus-value, le décroissement de l'un de ses facteurs peut donc être compensé par l'accroissement de l'autre. Ainsi, une diminution du taux de la plus-value n'en affecte pas la masse produite si le capital variable ou le nombre des ouvriers employés croissent proportionnellement. Un capital variable de 100 écus qui exploite 100 ouvriers au taux de 100% produit 100 écus de plus-value. Diminuer de moitié le taux de la plus-value et sa somme reste la même si vous doublez en même temps le capital variable. Par contre, la somme de plus-value reste la même quand le capital variable diminue, tandis que le taux de la plus-value augmente en proportion inverse. Supposez que le capitaliste paie quotidiennement 100 écus à 100 ouvriers, dont le temps de travail nécessaire s'élève à 6 heures et le surtravail à 3 heures. Le capital avancé de 100 écus se fait valoir au taux de 50% et produit une plus-value de 50 écus ou de 100 multiplié par 3 heures de travail égale 300 heures. Si le capitaliste réduit maintenant ses avances de moitié, de 100 à 50 écus, ou n'embauche plus que 50 ouvriers, s'il réussit en même temps à doubler le taux de la plus-value ou, ce qui revient au même, à prolonger le surtravail de 3 à 6 heures, il gagnera toujours la même somme, car 50 écus multipliés par, ouvrez la parenthèse, 100 sur 100, fermez la parenthèse, égale 100 écus multipliés par, ouvrez la parenthèse, 50 sur 100, fermez la parenthèse, égale 50 écus. Calculant par heure de travail, on obtient 50 forces de travail multipliées par 6 heures égale 100 forces de travail multipliées par 3 heures égale 300 heures. Une diminution du capital variable peut donc être compensée par une élévation proportionnelle du taux de la plus-value, ou bien une diminution des ouvriers employés par une prolongation proportionnelle de leur journée de travail. Jusqu'à un certain point, la quantité de travail exploitable par le capital devient ainsi indépendante du nombre des ouvriers. Note de bas de page. Cette loi élémentaire semble inconnue à messieurs les économistes vulgaires qui, nouveaux Archimèdes, mais à rebours, croient avoir trouvé, dans la détermination des prix du marché du travail par l'offre et la demande, le point d'appui au moyen duquel ils ne soulèveront pas le monde, mais le maintiendront en repos. Fin de la note de bas de page. Donc, une diminution du capital variable peut donc être compensée par une élévation proportionnelle du taux de la plus-value, ou bien une diminution des ouvriers employés par une prolongation proportionnelle de leur journée de travail. Jusqu'à un certain point, la quantité de travail exploitable par le capital devient ainsi indépendante du nombre des ouvriers. Cependant, cette sorte de compensation rencontre une limite infranchissable. Le jour naturel de 24 heures est toujours plus grand que la journée moyenne de travail. Celle-ci ne peut donc jamais rendre une valeur quotidienne de 4 écus si l'ouvrier moyen produit la valeur de 1 sixième d'écu par heure, car il lui faudrait 24 heures pour produire une valeur de 4 écus. Quant à la plus-value, sa limite est encore plus étroite. Si la partie de la journée nécessaire pour remplacer le salaire quotidien s'élève à 6 heures, il ne reste du jour naturel que 18 heures, dont les lois biologiques réclament une partie pour le repos de la force. Posons 6 heures comme limite minima de ce repos. En prolongeant la journée de travail à la limite maxima de 18 heures, le surtravail ne sera que de 12 heures et ne produira par conséquent qu'une valeur de 2 écus. Un capital variable de 500 écus qui emploie 500 ouvriers à un taux de plus-value de 100% ou avec un travail de 12 heures, dont 6 appartiennent au surtravail, produit chaque jour une plus-value de 500 écus ou 6 fois 500 heures de travail. Un capital de 100 écus qui emploie chaque jour 100 ouvriers à un taux de plus-value de 200% ou avec une journée de travail de 18 heures. Il ne produit qu'une plus-value de 200 écus ou 12 fois 100 heures de travail. Son produit en valeur totale ne peut jamais, par journée moyenne, atteindre la somme de 400 écus ou 24 multiplié par 100 heures de travail. Une diminution du capital variable ne peut donc être compensée par l'élévation du taux de la plus-value ou, ce qui revient au même, une réduction du nombre des ouvriers employés par une hausse du degré d'exploitation, que dans les limites physiologiques de la journée de travail et, par conséquent, du surtravail qu'elle renferme. Cette loi, d'une évidence absolue, est importante pour l'intelligence de phénomènes compliqués. Nous savons déjà que le capital s'efforce de produire le maximum possible de plus-value. Et nous verrons plus tard qu'il tâche en même temps de réduire au minimum, comparativement aux dimensions de l'entreprise, sa partie variable ou le nombre d'ouvriers qu'il exploite. Ces tendances deviennent contradictoires dès que la diminution de l'un des facteurs qui détermine la somme de la plus-value ne peut plus être compensée par l'augmentation de l'autre. Comme la valeur n'est que du travail réalisé, il est évident que la masse de valeur qu'un capitaliste fait produire dépend exclusivement de la quantité de travail qu'il met en mouvement. Il en peut mettre en mouvement plus ou moins avec le même nombre d'ouvriers, selon que leur journée est plus ou moins prolongée. Mais, étant donné et la valeur de la force de travail et le taux de la plus-value, en d'autres termes, les limites de la journée et sa division en travail nécessaire et surtravail, la masse totale de valeur, y inclut la plus-value qu'un capitaliste réalise, est exclusivement déterminée par le nombre des ouvriers qu'il exploite, et ce nombre lui-même dépend de la grandeur du capital variable qu'il avance. Les masses de plus-value produites sont alors en raison directe de la grandeur des capitaux variables avancés. Or, dans les diverses branches d'industrie, la division proportionnelle du capital entier en capital variable et en capital constant diffère grandement. Dans le même genre d'entreprise, cette division se modifie selon les conditions techniques et les combinaisons sociales du travail. Mais on sait que la valeur du capital constant reparaît dans le produit, tandis que la valeur ajoutée aux moyens de production ne provient que du capital variable, de cette partie du capital avancé qui se convertit en force de travail. De quelque manière qu'un capital donné se décompose en partie constante et en partie variable, que celle-là soit à celle-ci comme 2 est à 1, comme 10 est à 1, etc., que la valeur des moyens de production, comparée à la valeur des forces de travail employées, croisse, diminue, reste constante, qu'elle soit grande ou petite, peu importe. Elle reste sans la moindre influence sur la masse de valeur produite. Si l'on applique la loi émise plus haut aux différentes branches d'industrie, quelle que puisse y être la division proportionnelle du capital avancé en partie constante et en partie variable, on arrive à la loi suivante. La valeur de la force moyenne de travail et le degré moyen de son exploitation étant supposés égaux dans différentes industries, les masses de plus-value produites sont en raison directe de la grandeur des parties variables des capitaux employés, c'est-à-dire en raison directe de leur partie convertie en force de travail. Cette loi est en contradiction évidente avec toute expérience fondée sur les apparences. Chacun sait qu'un filateur qui emploie relativement beaucoup de capital constant et peu de capital variable n'obtient pas, à cause de cela, un bénéfice ou une plus-value moindre que le boulanger qui emploie relativement beaucoup de capital variable et peu de capital constant. La solution de cette contradiction apparente exige bien des moyens termes. De même qu'en algèbre, il faut bien des moyens termes pour comprendre que 0 sur 0 peut représenter une grandeur réelle. Bien que l'économie classique n'ait jamais formulé cette loi, elle y tient instinctivement, parce qu'elle découle de la nature même de la valeur. On verra plus tard, note de bas de page, dans le livre 4e, fin de la note de bas de page. On verra plus tard comment l'école de Ricardo est venue buter contre cette pierre d'achoppement. Quant à l'économie vulgaire, elle se targue ici, comme partout, des apparences pour nier la loi des phénomènes. Contrairement à Spinoza, elle croit que, ouvrez les guillemets, l'ignorance est une raison suffisante. Fermez les guillemets. Le travail qui est mis en mouvement un jour portant l'autre, note de la donneuse de voix, la traduction sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre donne, ouvrez les guillemets, jour après jour, fermez les guillemets, fin de la note de la donneuse de voix. Donc, le travail qui est mis en mouvement un jour portant l'autre, par tout le capital d'une société, peut être considéré comme une seule journée de travail. Le nombre des travailleurs est-il, par exemple, d'un million, et la journée de travail moyenne est-elle de 10 heures ? La journée de travail social consiste en 10 millions d'heures. La longueur de cette journée étant donnée, que ses limites soient fixées physiquement ou socialement, la masse de la plus-value ne peut être augmentée que par l'augmentation du nombre des travailleurs, c'est-à-dire de la population ouvrière. L'accroissement de la population forme ici la limite mathématique de la production de la plus-value par le capital social. Inversement, étant donnée la grandeur de la population, cette limite est formée par la prolongation possible de la journée de travail. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Le travail, qui est le temps économique de la société, est une quantité donnée, soit 10 heures par jour d'un million d'hommes, ou 10 millions d'heures. Trois petits points. Le capital a sa limite d'accroissement. Cette limite peut, à toute période de l'année, être atteinte dans l'extension actuelle du temps économique employé. Fermez les guillemets. An Essay on the Political Economy of Nations, London, 1821, page 48-49, fin de la note de bas de page. Donc, l'accroissement de la population forme ici la limite mathématique de la production de la plus-value par le capital social. Inversement, étant donné la grandeur de la population, cette limite est formée par la prolongation possible de la journée de travail. On verra dans le chapitre suivant que cette loi n'est valable que pour la forme de la plus-value traitée jusqu'à présent. Il résulte de l'examen que nous venons de faire de la production de la plus-value que toute somme de valeur ou de monnaie ne peut pas être transformée en capital. Cette transformation ne peut s'opérer sans qu'un minimum d'argent ou de valeur d'échange se trouve entre les mains du postulant à la dignité capitaliste. Le minimum du capital variable est le prix moyen d'une force de travail individuelle employée l'année entière à la production de plus-value. Si le possesseur de cette force était nanti de moyens de production à lui et se contentait de vivre comme ouvrier, il lui suffirait de travailler le temps nécessaire pour payer ses moyens de subsistance, mettons 8 heures par jour. Il n'aurait également besoin de moyens de production que pour 8 heures de travail. Tandis que le capitaliste qui, outre ses 8 heures, lui fait exécuter un surtravail de 4 heures, par exemple, a besoin d'une somme d'argent supplémentaire pour fournir le surplus des moyens de production. D'après nos données, il devrait déjà employer 2 ouvriers pour pouvoir vivre comme un seul ouvrier de la plus-value qu'il empoche chaque jour, c'est-à-dire satisfaire ses besoins de première nécessité. Dans ce cas, le but de sa production serait tout simplement l'entretien de sa vie, et non l'acquisition de richesses. Or, celle-ci est l'objet sous-entendu de la production capitaliste. Pour qu'il vécût seulement 2 fois aussi bien qu'un ouvrier ordinaire et transformât en capital la moitié de la plus-value produite, il lui faudrait augmenter de 8 fois le capital avancé en même temps que le nombre des ouvriers. Assurément, il peut lui-même, comme son ouvrier, mettre la patte à l'œuvre. Mais alors, il n'est plus qu'un être hybride, qu'une chose intermédiaire entre capitaliste et travailleur. Un « petit patron », entre guillemets. À un certain degré de développement, il faut que le capitaliste puisse employer à l'appropriation et à la surveillance du travail d'autrui et à la vente des produits de ce travail, tout le temps pendant lequel il fonctionne comme capital personnifié. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Le fermier ne peut pas compter sur son propre travail. Et s'il le fait, je maintiens qu'il y perdra. Sa fonction est de tout surveiller. Il faut qu'il ait l'œil sur son batteur en grange, ses faucheurs, ses moissonneurs, etc. Il doit constamment faire le tour de ses clôtures et voir si rien n'est négligé, ce qui aurait lieu certainement s'il se confinait en une place quelconque. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Between the price of provisions and the size of farms, etc. By a farmer. London, 1773, page 12. Fermez la parenthèse. Cet écrit est très intéressant. On peut y étudier la genèse du « capitalist farmer » entre guillemets ou « merchant farmer » entre guillemets, comme il est appelé en toutes lettres, et y lire sa glorification vis-à-vis du « petit fermier » entre guillemets qui n'a qu'un souci, celui de sa subsistance. Ouvrez les guillemets. La classe des capitalistes est d'abord en partie et finalement « tout à fait délivré de la nécessité du travail manuel. Fermez les guillemets. Textbook of Lectures on Right Polit Economy of Nations by the Rev. Richard Jones, Hertford, 1852, lecture, grand 3. Fin de la note de bas de page. Donc, à un certain degré de développement, il faut que le capitalisme puisse employer à l'appropriation et à la surveillance du travail d'autrui et à la vente des produits de ce travail tout le temps pendant lequel il fonctionne comme capital personnifié. L'industrie corporative du Moyen-Âge cherchait à empêcher le maître, le chef de corps de métier, de se transformer en capitaliste, en limitant à un maximum très restreint le nombre des ouvriers qu'il avait le droit d'employer. Le possesseur d'argent ou de marchandises ne devient en réalité capitaliste que lorsque la somme minima qu'il avance pour la production dépasse déjà de beaucoup le maximum du Moyen-Âge. Ici, comme dans les sciences naturelles, se confirme la loi constatée par Hegel dans sa logique, loi d'après laquelle de simples changements dans la quantité, parvenus à un certain degré, amènent des différences dans la qualité. Note de bas de page. La théorie moléculaire de la chimie moderne, développée pour la première fois scientifiquement par Laurent et Gerhardt, a pour base cette loi. Fin de la note de bas de page. Donc, ici, comme dans les sciences naturelles, se confirme la loi constatée par Hegel dans sa logique, loi d'après laquelle de simples changements dans la quantité, parvenus à un certain degré, amènent des différences dans la qualité. Le minimum de la somme de valeur dont un possesseur d'argent ou de marchandises doit pouvoir disposer pour se métamorphoser en capitaliste varie suivant les divers degrés de développement de la production. Le degré de développement donné, il varie également dans les différentes industries, suivant leurs conditions techniques particulières. À l'origine même de la production capitaliste, quelques-unes de ces industries exigeaient déjà un minimum de capital qui ne se trouvait pas encore dans les mains de particuliers. C'est ce qui rendit nécessaire les subsides d'État accordés à des chefs d'industrie privés, comme en France du temps de Colbert, et comme de nos jours cela se pratique encore dans plusieurs principautés de l'Allemagne, et la formation de sociétés avec monopole légal pour l'exploitation de certaines branches d'industrie et de commerce. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Compagnie Monopolia, fermez les guillemets. Tel est le nom que donne Martin Luther à ce genre d'institution. Fin de la note de bas de page. Donc, c'est ce qui rendit nécessaires les subsides d'État accordés à des chefs d'industrie privés, comme en France du temps de Colbert et comme de nos jours cela se pratique encore dans plusieurs principautés de l'Allemagne, et la formation de sociétés avec monopole légal pour l'exploitation de certaines branches d'industrie et de commerce, autant d'avant-coureurs des sociétés modernes par action. Le capital, comme nous l'avons vu, se rend maître du travail, c'est-à-dire parvient à courber sous sa loi la force de travail en mouvement ou le travailleur lui-même. Le capitaliste veille à ce que l'ouvrier exécute son ouvrage soigneusement et avec le degré d'intensité requis. Le capital s'offre en outre comme rapport coercitif, obligeant la classe ouvrière à exécuter plus de travail que ne l'exige le cercle resserré de ses besoins. Comme producteur et metteur en œuvre de l'activité d'autrui, comme exploiteur de la force de travail et soutireur de travail extra, le système capitaliste dépasse en énergie, en efficacité et en puissance illimitée tous les systèmes précédents de production fondés directement sur les différents systèmes de travaux forcés. Le capital s'empare d'abord du travail dans les conditions techniques données par le développement historique. Il ne modifie pas immédiatement le mode de production. La production de plus-value, sous la forme considérée précédemment par simple prolongation de la journée, s'est donc présentée indépendante de tout changement dans le mode de produire. De nos jours, elle n'est pas moins active dans les boulangeries où s'appliquent encore des procédés primitifs que dans les filatures automatiques. Quand nous examinions la production au simple point de vue de la valeur d'usage, les moyens de production ne jouaient point vis-à-vis de l'ouvrier le rôle de capital, mais celui de simples moyens et matériaux de son activité productive. Dans une tannerie, par exemple, il tanne le cuir et non le capital. Il en a été autrement dès que nous avons considéré la production au point de vue de la plus-value. Les moyens de production se sont transformés immédiatement en moyens d'absorption du travail d'autrui. Ce n'est plus le travailleur qui les emploie, mais ce sont au contraire eux qui emploient le travailleur. Au lieu d'être consommé par lui comme élément matériel de son activité productive, il le consomme lui-même comme ferment indispensable à leur propre vie. Et la vie du capital ne consiste que dans son mouvement comme valeur perpétuellement en voie de multiplication. Les hauts fourneaux et les bâtiments de fabrique qui se reposent la nuit et n'absorbent aucun travail vivant sont pertes pures, ouvrez la parenthèse, a mere loss, fermez la parenthèse, pour le capitaliste. Voilà pourquoi les hauts fourneaux et les bâtiments de fabrique constituent, ouvrez les guillemets, un titre, un droit au travail de nuit, fermez les guillemets, des ouvriers. Inutile pour le moment d'en dire davantage. Montrons seulement par un exemple comment cette inversion des rôles qui caractérise la production capitaliste, comment ce renversement étrange du rapport entre le travail mort et le travail vivant, entre la valeur et la force créatrice de valeur, se reflète dans la conscience des seigneurs du capital. Pendant la révolte des fabricants anglais de 1848-1860, le chef de la filature de lin et de coton de Paisley, une des raisons sociales les plus anciennes et les plus respectables de l'Écosse occidentale, de la société Carlyle et Fils, qui existe depuis 1752 et, de génération en génération, est toujours dirigée par la même famille, ce gentleman, possesseur d'une intelligence hors ligne, écrivit dans la, ouvrez les guillemets, Glasgow Daily Mail, fermez les guillemets, du 25 avril 1849, une lettre, note de bas de page, Reports of Inns of Fact for 30 April 1849, page 59, fin de la note de bas de page. Donc, ce gentleman, possesseur d'une intelligence hors ligne, écrivit dans le Glasgow Daily Mail, entre guillemets, du 25 avril 1849, une lettre intitulée, ouvrez les guillemets, Le système des relais, fermez les guillemets, où se trouve, entre autres, passage suivant d'un grotesque naïf, ouvrez les guillemets. Considérons les mots qui découlent d'une réduction du temps de travail de 12 heures à 10, trois petits points. Ils portent le plus sérieux préjudice aux prérogatives et à la propriété du fabricant. Si, après avoir travaillé 12 heures, ouvrez la parenthèse, il veut dire « fait travailler ses bras », fermez la parenthèse, il ne travaillait plus que 10, alors chaque 12 machines ou broches, par exemple, de son établissement, se rapetisserait à 10. Ouvrez la parenthèse. Then, every 12 machines or spindles in his establishment shrink to 10. Fermez la parenthèse. et, s'il voulait vendre sa fabrique, on ne les estimerait que 10 en réalité, de sorte que chaque fabrique dans tout le pays perdrait 1/6 de sa valeur. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Locke cite page 60. L'inspecteur de fabrique Stewart, écossais lui-même, et contrairement aux inspecteurs anglais, tout à fait imbu de la manière de voir capitaliste, affirme expressément que cette lettre, qu'il annexe à son rapport, est, ouvrez les guillemets, la communication la plus utile qui lui ait été faite par les fabricants qui emploient le système des relais, et qu'elle a principalement pour but d'écarter les préjugés et de lever les scrupules que soulève ce système. Fermez les guillemets, fin de la note de bas de page. Pour cette forte tête d'Écosse, la valeur des instruments de production se confond entièrement, comme on le voit, avec la propriété qu'il possède en tant que capital de se faire valoir ou de s'assimiler chaque jour un quantum déterminé de travail gratuit. Et ce chef de la maison, Carlyle et Si, s'illusionne au point de croire que, dans la vente de sa fabrique, il lui est payé non seulement la valeur de ses machines, mais encore, par-dessus le marché, leur mise en valeur. Non seulement le travail qu'elles recèlent, et qui est nécessaire à la production de machines semblables, mais encore le surtravail qu'elles servent à soutirer chaque jour des braves Écossais de Paisley. Et voilà pourquoi, selon lui, une réduction de 2 heures de la journée de travail ferait réduire le prix de vente de ces machines. Une douzaine n'en vaudrait plus qu'une dizaine.